Le 31 mars dernier, un tout nouveau magazine est paru sur le territoire puy-de-mois, un trimestriel qui reflète notre beau patrimoine, j'ai nommé Kipuka. Consacré au volcan, il saura éveiller la curiosité des amateurs et amatrices de la volcanologie. Dans cette série de magazines, vous retrouverez aussi bien de la géologie que de l'archéologie. Pour percer tous les secrets de ces mystérieuses montagnes explosives, nous rencontrons aujourd'hui Jean-Marie Prival, rédacteur en chef de Kipuka et docteur en volcanologie. Bonjour à vous.
Bonjour et merci pour l'invitation.
Jean-Marie, vous avez officiellement lancé le premier numéro de votre magazine Kipuka le 31 mars dernier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu de quoi aborde ce magazine ? Qu'est-ce que les lecteurs peuvent retrouver à l'intérieur ?
Kipuka, c'est un magazine de vulgarisation scientifique qui est donc consacré au volcan. Donc le volcan, c'est le thème central et ensuite donc on va parler de l'objet volcan un peu sous toutes ses facettes. Évidemment, il y a une emphase sur la géologie qui sera quand même au cœur du magazine, mais on va aussi aborder l'archéologie, mais aussi l'art, la culture et même un peu de zoologie et de botanique, donc parce qu'il y a de la vie aussi autour des volcans. On va parler de diverses disciplines qui s'intéressent un peu aux différentes facettes des volcans.
C'est la question que tout le monde se pose, mais qu'est-ce que ça veut dire Kipuka ? Qu'est-ce que ça signifie ? J'imagine que c'est en rapport avec la volcanologie.
Oui, tout à fait. Donc c'est un terme de volcanologie hawaïen, un terme hawaïen donc, qui se prononce effectivement Kipuka, le U se prononce U. Ça désigne en fait des petits îlots de végétation qui restent préservés des coulées de lave en fait. Donc quand vous avez une coulée qui se met en place sur les pentes d'un volcan, la lave étant fluide, elle va avoir tendance à remplir les creux topographiques, un peu comme de l'eau, comme une rivière. Et s'il y a des reliefs, des petites collines par exemple, elles vont être préservées en fait des flots de lave. Va contourner la colline, les branches de la coulée vont se rejoindre après avoir contourné la colline et l'essence, un petit îlot préservé qui sera pas détruit par la lave. Donc souvent ça fait des images assez spectaculaires de petites taches vertes au milieu d'un océan noir minéral une fois que la coulée a refroidi. Et c'est de ces Kipuka ensuite que la vie va reprendre ses droits et va repartir coloniser la coulée, puisque ces Kipuka donc préservent la végétation mais aussi des oiseaux, des insectes, etc. qui vont ensuite pouvoir lentement recoloniser la coulée de lave une fois qu'elle est refroidie.
Merci pour cet éclaircissement. Je pense que la plupart de nos internautes se demandaient qu'est-ce que ça voulait dire Kipuka. Comment vous citez l'intérêt des lecteurs pour qu'ils aient envie de lire le magazine de vulgarisation des volcans, tout simplement ? Comment vous rendez la volcanologie attirante par le grand public ? Quand on est confronté, on va dire, à un magazine de volcans, c'est vrai qu'on n'est peut-être pas forcément peut-être attiré premièrement par ça. Donc comment vous suscitez l'intérêt des lecteurs ?
Le magazine s'adresse quand même surtout à des gens qui sont déjà intéressé par cette thématique. Il y en a pas mal en fait en France. On a eu la chance d'avoir des gens comme les Kraft par exemple ou Haroun Taziev aussi qui ont écrit beaucoup de livres, réalisé des documentaires sur le sujet. Les volcans, c'est quand même un sujet assez sexy entre guillemets. Ça fait des belles images. Les éruptions, la lave, les cendres, tout ça, c'est quand même des images assez spectaculaires qui marquent souvent l'esprit du public. Il y a effectivement en France un public de gens qui sont intéressés par les volcans. Ça reste un marché de niche, on peut dire, mais le magazine s'adresse surtout quand même à ces personnes, aux gens qui sont déjà un peu intéressés par les volcans. Ça peut être aussi des lycéens qui sont en filière SVT par exemple, des profs, des bibliothèques, des médiathèques, etc. On s'adresse un peu à tous ces gens-là qui diffusent un peu la culture et le savoir aussi dans leur structure.
Effectivement, donc c'est un magazine qui est destiné à tous les publics, donc à ceux qui sont passionnés comme amateurs de volcanologie. Est-ce que vous sensibilisez les jeunes générations ? Est-ce que vous organisez des conférences, des séminaires pour parler de la volcanologie dans celle-ci ?
J'ai déjà fait plusieurs actions de vulgarisation et de médiation scientifique ces dernières années, notamment au cours des fêtes de la science. Donc chaque année, vers début octobre, il y a la fête de la science. Et j'essaie chaque année de proposer une animation. Par exemple, j'avais monté un atelier pour des scolaires, des primaires et des collégiens. Je leur avais amené plein de roches volcaniques différentes qu'ils pouvaient regarder et manipuler. Et puis, à l'issue de leur manipulation des roches, on a essayé de comprendre ensemble comment ces roches s'étaient formées en fonction de leur forme, de leur texture, de leur couleur, on pouvait arriver à avoir des indices sur les processus de formation de ces roches. L'an dernier, j'ai fait une conférence grand public sur les volcans. J'ai fait aussi des lectures de paysages au sommet du Puy-de-Dôme avec des scolaires toujours, où on a donc montré à des classes le paysage en haut du Puy-de-Dôme et essayé de leur expliquer comment les différents volcans qu'on voit depuis le sommet se sont formés. Donc ça, c'est le genre d'action, effectivement, que je peux faire.
Je vous propose de rentrer un peu plus dans le vif du sujet, à savoir déjà le magazine et parler un peu plus des volcans. On sait tous que l'apparition des volcans s'est faite depuis des milliers d'années, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est composé un volcan ?
Ce qu'on appelle du magma, donc pour simplifier, c'est de la roche fondue, des roches qui viennent du manteau terrestre. Donc le manteau, c'est la couche qui est située sous la croûte, qui fait en moyenne à peu près une trentaine de kilomètres d'épaisseur. Et puis donc sous cette croûte, il y a le manteau. Dans certaines conditions précises, le manteau peut fondre partiellement et générer du magma. En remontant à la surface, il va se transformer soit en lave si l'éruption est ce qu'on appelle effusive, soit en cendre si l'éruption est explosive. C'est cette lave et cette cendre qui, en sortant à la surface, créent des volcans.
Il y a beaucoup de personnes qui font l'amalgame entre volcan effusif et volcan explosif. Est-ce que vous pouvez un peu plus développer c'est quoi la différence entre les deux ?
Les volcans plutôt effusifs, ils ont tendance à émettre de la lave. C'est-à-dire que le magma, en général, il a été dégazé avant l'éruption. Il n'y a plus beaucoup de gaz dans le magma. Et le magma peut alors sortir sous forme de lave, ce qui fait des coulées qui sont spectaculaires et qui peuvent être destructrices aussi. Le magma n'est pas fragmenté. Et s'il y a par contre du gaz qui reste dans le magma, quand il va arriver près de la surface, là, il va y avoir ce qu'on appelle la fragmentation du magma. Donc, il va se fragmenter en des millions de petites particules qui vont, elles, donc remonter à la surface sous forme d'un panache de cendres qui vont ensuite être dispersées ou créer ce qu'on appelle des coulées pyroclastiques qui sont, elles aussi, très destructrices d'ailleurs. Et donc, on fait un peu la distinction entre ces deux formes de volcans, même si en réalité, il y a beaucoup de volcans qui sont capables de faire à la fois des éruptions effusives et des éruptions explosives.
En rapport toujours avec ces volcans effusifs et explosifs, c'était dans l'an 79. Une nuit ardente s'est abattue sur la ville de Pompéi et a avalé la ville en une dizaine de, voire une vingtaine de minutes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est le phénomène des nuits ardentes, comment elles interviennent et pourquoi elles sont autant destructrices à la fois pour la population et à la fois pour l'environnement ?
La cause principale des nuées ardentes, en tout cas dans le cas d'une éruption comme celle du Vésuve en l'an 79, c'est l'effondrement du panache en fait. Donc quand vous avez ce panache de gaz et de cendres mélangés qui montent dans l'atmosphère à des altitudes, des fois pour le Vésuve on a estimé que c'était 30 km. Si le panache monte, c'est tout simplement par flottabilité, c'est-à-dire que ce mélange de cendres et de gaz, il est plus léger que l'air. Donc il monte, mais jusqu'à un certain point, et au bout d'un moment, en refroidissant, le mélange gaz-particules devient finalement plus dense que l'air. Et là, vous avez donc une partie de la colonne éruptive qui va s'effondrer, en fait. Donc au lieu de monter, tout d'un coup, le mélange de gaz et de particules redescend, tout simplement par gravité, et s'écoule après jusqu'aux pentes du volcan, où il continue de couler à des vitesses de 300 ou 400 km/h. Ça, évidemment, c'est très dévastateur. Souvent, le mélange est encore chaud, on a des températures des fois estimées à 300 degrés, dans ces nuages de coulées pyroclastiques. Et ça va très vite, c'est très chaud, donc ça détruit toute vie, comme ça l'a fait à Saint-Pierre, à la Martinique en 1902, par exemple, avec la nuée ardente de la montagne Pelée.
Les nuées ardentes sont des phénomènes qui peuvent intervenir actuellement ?
Oui, bien sûr, il y en a encore régulièrement. Alors, pas forcément des aussi grosses que lors de l'éruption du Vésuve en 79. Donc ça, c'était une éruption qu'on appelle plinienne. Donc ça, c'est des éruptions qui se produisent à des fréquences quand même relativement peu élevées. Il y en a peut-être une ou deux par siècle de la même intensité que celle du Vésuve. Après, il y a des éruptions plus petites régulièrement qui donnent lieu à des nuées ardentes. Il y en a eu une en 2018 au Guatemala, par exemple. Il y en a eu une là récemment au Merapi, en Indonésie. J'en parle un petit peu dans les actualités de Kipuka. Il y a eu donc en février ou mars au Merapi, donc c'est un volcan qui est situé sur l'île de Java, en Indonésie, qui est un volcan très actif, qui produit souvent des nuées ardentes. Alors lui, c'est un autre mécanisme, c'est qu'il a un dôme de lave qui pousse dans le cratère en permanence. Dès qu'il atteint des tailles un peu trop grosses, une partie du dôme a tendance à s'effondrer. Et ça, ça génère aussi des petites coulées pyroclastiques sur les flancs du volcan. Mais ceux-là, ils sont assez fréquents, effectivement. On en voit chaque année sur les différents volcans du monde, en Alaska, au Kamchatka ou ailleurs.
Toujours en rapport avec ces nuées ardentes, vous nous avez dit que c'était assez destructeur. Il y a beaucoup de régions qui sont touchées par ce phénomène. Comment les experts luttent contre ces écoulements de lave ? Est-ce qu'il y a des dispositions, des mesures qui sont mises en place et quelles sont-elles ?
Ah, contre les écoulements pyroclastiques, on peut rien. Contre les coulées de lave, oui, on peut des fois intervenir. J'ai fait un dossier là-dessus, donc dans le premier numéro de Kipuka. Donc il y a eu des tentatives pour essayer de soit stopper, soit diriger des coulées de lave dans d'autres directions que par différents moyens, des barrières, où on a même arrosé des coulées pour essayer de les ralentir. Les coulées pyroclastiques, contre elles, on ne peut pas faire grand-chose si ce n'est essayer d'évacuer, évidemment, les populations quand il y a des menaces. Donc dans le cas du Merapi, là en mars, il n'y a pas eu de victimes à ma connaissance, parce que justement l'activité du volcan faisait qu'une zone de 4 ou 5 km autour du volcan avait déjà été déclarée zone exclusion par les autorités. Il était interdit de s'y rendre. Les populations qui habitaient là avant avaient déjà été évacuées, etc. Donc ces coulées pyroclastiques là du mois de mars n'ont pas fait de victimes, mais on peut pas essayer d'arrêter une coulée pyroclastique. C'est beaucoup trop destructeur, beaucoup trop rapide.
C'est vrai que les éruptions volcaniques sont souvent assimilées à une catastrophe naturelle, mais est-ce que l'activité humaine peut avoir un impact sur ces éruptions volcaniques ?
A priori, non. C'est vrai que la question a été posée, par exemple, à Hawaï en 2018, il y a eu une grande éruption du Kilauea, et il y a des gens qui se sont demandé si l'activité de la centrale géothermique locale ne pouvait pas être liée à l'éruption. Ça a été pris très au sérieux par les autorités. Les géologues de l'USGS ont fait une étude là-dessus, et ils ont conclu qu'il n'y avait pas de lien entre la centrale géothermique et l'éruption. Il y a des liens entre les centrales géothermiques et les séismes, ça c'est vrai qu'il y a eu des cas en Alsace, il y a eu des liens avérés entre les forages profond pour l'exploration géothermique et la genèse de séismes. L'activité volcanique, à ma connaissance, n'a jamais été directement provoquée par l'homme. Peut-être indirectement, on parle beaucoup du changement climatique en ce moment. On sait que les éruptions volcaniques ont un impact sur le climat. On en parle souvent que les grosses éruptions volcaniques créent une sorte d'hiver volcanique où pendant un an ou deux après l'éruption, les températures sont plus basses. Mais on sait moins que ça marche aussi dans l'autre sens et qu'il peut y avoir des impacts du climat sur les volcans. Et notamment quand il y a un réchauffement climatique et donc des dégâts. Glaciation, ça peut entraîner une hausse de la fréquence des éruptions volcaniques parce que si vous enlevez toute la masse de glace qui pèse sur la croûte terrestre, vous allez relâcher un peu les contraintes qui pèsent sur les systèmes magmatiques dans la croûte. En enlevant de la glace, on enlève de la pression et on permet au magma de remonter plus facilement en fait.
Donc effectivement, le réchauffement climatique est de plus en plus présent actuellement. Est-ce que vous avez déjà vécu une éruption volcanique ? Est-ce que vous êtes déjà allé sur un volcan en éruption et qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là ?
La première fois, c'était en 2010 au Guatemala, sur un volcan qui s'appelle Pacaya. C'était une éruption effusive, donc gentille, entre guillemets, où c'était juste un peu de lave qui coulait. Mais c'était quand même impressionnant. On se sent tout petit et impuissant face à la nature dans ce genre de situation.
Vous avez ressenti un peu de la peur, de l'adrénaline ?
Non, parce qu'on essaie de pas faire n'importe quoi. Bon, là, j'y étais en tant que touriste et pas en tant que volcanologue. Donc c'est vrai que dans les pays comme ça, c'est pas très encadré. On fait un peu ce qu'on veut. Il y a des gens qui allaient marcher sur la croûte de la coulée de lave, là où elle était un peu refroidie, ce qui est potentiellement dangereux parce qu'en fait, la croûte de la coulée, elle est fine et en dessous c'est encore liquide et chaud. Le danger, il était quand même présent, mais plus pour les gens qui étaient un peu insouciants, inconscients.
Quelle est la plus belle expérience que vous avez vécue en tant que volcanologue ou en tant que touriste sur un volcan ?
Je pense Stromboli, c'est un des premiers volcans actifs que j'ai vu. Il y a tout le côté mythique, comme le sont la plupart des grands volcans italiens, le Stromboli, l'Etna et le Vésuve, qui sont des phares dans le domaine de la volcanologie. Voilà, ça fait 2000 ans qu'on les étudie. Dans l'Antiquité, il y a eu beaucoup de choses écrites déjà à leur sujet. Ils sont associés à des mythes aussi, à des légendes, etc. Donc il y a déjà toute cette histoire-là qui nous précède quand on arrive sur l'île. Et puis l'île en elle-même, c'est tout petit, c'est tout pelé, c'est vraiment un caillou tout noir là au milieu de la mer, avec finalement que quelques centaines d'habitants qui s'accrochent là à ce bout de rocher. Là, c'est un endroit assez spectaculaire, le fait que ça soit un volcan très actif qui fait presque une explosion chaque 15 minutes.
J'imagine que le Stromboli a une histoire, est-ce que vous pouvez nous la conter ?
C'est pas tant le Stromboli qui est associé à la mythologie, c'est surtout son voisin à Vulcano, sur une autre des îles éoliennes où j'ai passé une partie de ma thèse pour étudier une des coulées de lave de ce volcan. Et Vulcano, lui, il est associé directement au dieu des forges de Phaïstos dans la mythologie grecque, et puis après Vulcain par les Romains, qui a donné son nom au volcan. C'est aussi un cratère assez impressionnant. Alors lui, il n'est pas aussi actif que le Stromboli, mais donc il est effectivement associé à cette histoire. Donc c'est un endroit où il y a beaucoup de fumerolles. C'est des endroits où il y a beaucoup de fumée chargée de soufre qui sort du cratère. Donc déjà, effectivement, ça fait du bruit, il y a l'odeur de soufre, ça c'est très prégnant quand on est dans le cratère de Vulcano. Et puis il y a donc tous ces cristaux de soufre jaune qui nous entourent. C'est un environnement assez spécial.
On va continuer avec une citation de Maurice Kraft en 1984. « Je veux finir à Hawaï, encore que si je fais consciencement mon métier qui consiste à étudier les volcans explosifs, je ne devrais pas atteindre la retraite, ou alors si je l'atteins, c'est suspect. Ça veut dire que je n'ai pas fait consciencieusement mon métier. » Alors c'est une phrase qui est quand même assez tragique, car en fait son destin c'était de mourir sur le terrain. Est-ce que vous trouvez ça surprenant de mourir de sa passion?
Oui, j'ai pas envie de finir comme lui, c'est clair. Moi, si je peux profiter de la retraite, j'en serais content. Il y a un côté un peu de tête brûlée dans cette phrase, bon, mais qui était aussi le propre de certains explorateurs de cette époque. On peut penser aussi à Cousteau ou des gens comme ça. Et un côté qui a sans doute été nécessaire d'ailleurs pour accomplir toutes ces grandes expéditions et faire toutes ces grandes découvertes. Il fallait sans doute ne pas avoir peur de braver le danger en tout cas. Alors le faire au péril de sa vie, je sais pas. Eux, ils ont pas eu de chance parce qu'ils sont morts finalement au Japon sur le mont Hunzen par une coulée pyroclastique. À l'époque, on savait pas que les coulées pyroclastiques pouvait faire ce que celle-là elle a fait, c'est-à-dire qu'elle a débordé de son chenal. Maintenant, on sait qu'effectivement certaines coulées peuvent sortir de leur chenal dans certaines conditions particulières. C'est ce qui leur est arrivé, malheureusement. Il n'y avait pas que, d'ailleurs, je crois qu'il y a une quarantaine de personnes qui sont mortes dans l'incident. On parle souvent des crafts, mais il y avait beaucoup d'autres victimes ce jour-là. Ils ont joué de malchance, sans doute. Ils ont payé notre méconnaissance de l'époque des phénomènes volcaniques. C'est aussi comme ça, malheureusement, par l'erreur, par l'échec, qu'on apprend. Et depuis, on sait effectivement que ce genre de phénomène est possible.
Pour redonner un peu plus le sourire à nos lecteurs, est-ce qu'on peut avoir un petit aperçu du deuxième numéro sans trop spoiler son contenu ?
Il y aura, comme d'habitude, les rubriques d'actualité. Le deuxième numéro paraîtra fin juin et du coup, il couvrira l'actualité éruptive et scientifique du deuxième trimestre, donc avril, mai, juin. Et puis après, il y aura un dossier qui sera consacré au Kipuka, parce que j'ai laissé un peu le mystère dans le premier numéro de qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça désigne. Là, vous avez eu un peu la primeur de la définition de Kipuka. Et puis, il y aura aussi un article sur la relation entre les coulées de lave et la végétation au Piton de la Fournaise à La Réunion. Il y aura un accent assez botanique dans le prochain numéro.
En tout cas, on a hâte de découvrir ce deuxième numéro qui, je le rappelle, sortira fin juin. Jean-Marie, merci beaucoup d'être passé et bon courage pour la suite de votre magazine Kipuka.